Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Liberté et NCS. Au programme, Penser avec le fleuve. Émigration au Chili. Xénophobie et transition politique. Bonne écoute.
Penser avec le fleuve. Un texte d'Adèle Claperton-Richard, paru à l'été 2023 dans le numéro 339 de la revue Liberté. Quelques fragments pour naviguer dans notre rapport au fleuve, pour réfléchir aux relations qu'on peut y nouer et au monde qui l'entoure. Il est tellement central qu'on l'oublie. Il fait partie de nous sans qu'on le sache. C'est ce qu'a tout de suite dit mon amie Mélanie quand je lui ai annoncé que j'allais écrire un texte sur le fleuve. Pas tant sur le fleuve qu'autour du fleuve et peut-être aussi avec ses courants. Qu'est-ce qui émerge quand on pense au fleuve? Quel rapport entretient-on réellement avec lui, au-delà de son caractère identitaire tellement évident, de sa fonction de plus importantes voies navigables commerciales du Canada, comme nous l'apprend l'Encyclopédie canadienne, ou de ses attraits touristiques de cartes postales, des couchers de soleil exceptionnels n'ayant rien à envier à l'archipel d'Hawaï, selon Tourisme Rivière-du-Loup. Quel écosystème de relations peut-on ou devrait-on y créer, préserver, renouveler en dehors de ses imaginaires figés et de ses usages marchandisables? Quel savoir se forme dans et à partir de son écologie qu'on peut déceler si on s'y attarde? Comment vivre une territorialité fluviale empreinte de soins et de réciprocité? Je dépose ici des réflexions, des pensées en mouvement, plus que des réponses définitives. 1. Le fleuve occupe une place de choix dans l'imaginaire collectif, selon le ministère de la Culture et des Communications. Ce même ministère a d'ailleurs, pour cette raison, désigné le Saint-Laurent lieu historique en 2017. Mais l'imaginaire collectif au centre duquel on place ici le fleuve, c'est probablement encore celui de l'aventure romantique et épique de la découverte du Nouveau Monde et de la fondation de la nation. Sur les eaux de ce Saint-Laurent fantasmé, on situe Cartier, Champlain et les autres boys explorateurs. Sur les rives, on rejoue en boucle la rencontre avec les Premières Nations et autres événements du récit colonial. En revanche, je ne pense pas que la traite d'esclaves qui s'est perpétuée sur et autour du fleuve pendant deux siècles soit incluse dans cet imaginaire collectif. De quelles histoires le fleuve est-il réellement empreint? Qu'est-ce qui perturbe son cours? 2. Le fleuve et ses rives représentent des paysages géographiques du capitalisme et du colonialisme d'accaparement. Leurs marqueurs sont partout, multiples. Les tours d'appartements de luxe qui poussent près du canal Lachine, les raffineries qui envahissent les contours de Montréal, les usines de pâte et papier qui monopolisent les berges à Trois-Rivières, à Québec ou à Baie-Comeau, le port de Sept-Îles et sa capacité annuelle de chargement de 100 mégatonnes, l'espace de 0,8 km² reconnu comme la réserve des Sipitres ou celui de 0,17 hectares de la réserve de Kakuna qui se retrouve enclavé dans des municipalités, les logements Airbnb trop chers de Kamouraska à Percé. Le double processus de cet accaparement capitaliste et colonial implique l'usurpation, l'appropriation et l'occupation possessive et destructrice des territoires, mais aussi une totale redéfinition des relations que l'on entretient avec ceux-ci, des pratiques et des savoirs qui en découlent. Il implique un démaillage des territorialités, des liens à la terre, à l'eau aussi. Pour l'exprimer dans les termes de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, la machine capitaliste et coloniale déterritorialise des espaces en décodant et en démantelant leurs rapports sociaux et les reterritorialise en y imposant, en y étampant, avec violence, ses propres règles. Ses propres règles qui permettent la circulation et l'accumulation par conteneurs de marchandises dans les ports et les quais achalandés, qui sont invoqués pour justifier les projets de forage en eau profonde, qui limitent et restreignent les accès à coups de barrière, de pancartes, terrains privés et autres clôtures. Les règles du capital colonial ont depuis longtemps accaparé et altéré les écosystèmes du fleuve en même temps qu'elles ont étouffé les multiplicités de relations sociales, émotionnelles, écologiques, ontologiques qui leur étaient inhérentes et potentielles. 3. Je pense aux mots du géographe marxiste David Harvey dans « Géographie de la domination ». Le capitalisme s'évertue constamment à créer un paysage social et physique à son image, adéquat à ses besoins à un moment donné, tout cela pour bouleverser, voire détruire, ce paysage à une date ultérieure. Et je pense au fait que le taux d'oxygène dans le Saint-Laurent diminue de façon dramatique depuis des décennies, selon de récentes données scientifiques. 4. Les innombrables bateaux qui sillonnent le fleuve ne nous apparaissent plus comme tels, mais ils rendent manifeste, peut-être plus que toute autre chose, le rapport d'exploitation et d'extractivisme dans lequel est pris le Saint-Laurent. Des cargos qui charrient des marchandises, des chalutiers qui extraient des vies à la tonne pour en faire des ressources halieutiques, des paquebots de croisière qui transportent des touristes. Ils attestent tous d'un rapport économique au territoire, d'un rapport de circulation, de rapidité, d'efficacité. Et celui-ci s'est intensifié. Il s'est creusé littéralement à coups de dragage, de canaux, de déviation. Car il a fallu déstructurer le fleuve pour que la navigation commerciale puisse enfin se développer pleinement et que les bateaux chargés des pains immenses arrachés au bassin hydrographique du Nitassinan puisse passer sans entrave à Québec, à Montréal et en amont. Il a fallu exproprier des milliers de personnes, inonder des dizaines de milliers d'hectares, déposséder des communautés Kanienkeaka du territoire et ainsi entraver l'accès au fleuve pour que les bateaux puissent passer sans interruption de Montréal jusqu'à la pointe du lac supérieur. Selon l'historien et géographe de l'environnement Jason W. Moore, le capitalisme est une manière d'organiser la nature. Peut-être qu'il s'agit plutôt de désorganiser la nature. Vous écoutez « Penser avec le fleuve », un texte d'Adèle Claperton-Richard, paru à l'été 2023 dans le numéro 339 de la revue Liberté. 5. Entre Winnipegou, la région du littoral, et Nunchitmit, l'intérieur des terres, les Pessamiulnuat, Innu de Pessamit, en Innu Emun, ont créé et déployé des relations et des savoirs en mouvement, par des trajectoires, des territorialités cycliques. Avant la destruction profonde de leur territoire, les Pessamiulnuat vivaient et vivent encore, mais de façon peut-être moins systématique aujourd'hui, une territorialité qui liait le fleuve et la forêt au rythme des saisons. Habitants du littoral l'été, ils remontaient en automne et en hiver vers leur territoire de chasse forestier au nord, puis redescendaient au printemps. Ces relations et ces savoirs, bien que désormais moins vécus, n'en ont pas moins été maintenus et gardés vivants. En dépit des arbres saccagés et volés, des rivières transformées, harnachées, des portages ennoyés, disparus, du bord du fleuve privatisé, de la perte des lieux, de la sédentarisation, des multiples dépossessions. Dans « As We Have Always Done », l'autrice Nisha Begg, Leanne Betasamosake Simpson, soulève que le contraire de la dépossession, ce n'est pas la possession, mais plutôt un attachement profond et consensuel, un rapport de réciprocité d'autres écosystèmes que le capitalisme et le colonialisme qui dévorent et accumulent se consacrent précisément à défaire, à dérégler. C'est cet attachement profond et consensuel, ce rapport de réciprocité et cette relation de soin que porte la territorialité inoue liée à l'eau, au fleuve, mais aussi aux rivières qu'ils rejoignent, qui entrent dans ces courants et s'entremêlent à eux. Cette territorialité relationnelle, avec ses connaissances fines, ses expériences, ses récits, sa mémoire, atteste d'une intimité millénaire, pour reprendre l'expression magnifique du géographe Louis-Edmond Hamelin. Je me dis que l'écologie de cette intimité millénaire rend le capitalisme moins inévitable. 6. Je suis retourné à Pessamit l'automne dernier, après un été d'absence. La première chose que j'ai écrite dans mon carnet de terrain a été « Je suis heureux, heureuse, de retrouver la côte nord, les épinettes, le fleuve ici. » Le fleuve ici, un écosystème de relations et de pratiques ancrés dans un territoire qui y sont liés et qui nous y lie. Cueillir du thé du Labrador et des graines rouges. Aller voir la chute de la rivière Papinachois et être impressionné chaque fois par la puissance avec laquelle elle se jette dans le fleuve. Se réveiller, faire le café, regarder le fleuve. La maison de Mélanie est sur le bord de la plage et dire chaque fois « Mitcha Milouachou ». C'est beau. Boire de la courge sur le bord de la Pessamiouchipou à l'embouchure du fleuve. Aller à Pointe-à-Michel pour voir le caplan rouler, surprendre à la place 100 phoques gris. Retourner cueillir des graines rouges, faire de la confiture, marcher le sentier de l'ancien portage près de la communauté, ramasser des bleuets sous le soleil de septembre et la présence bienveillante des épinettes, poser des collets à Unipit, demander à Telesch la recette de lasagne au lièvre, jouer au bingo. Autant de manières de façonner des relations à un territoire, à un lieu, et de se laisser façonner par lui, autant de manières de vivre une territorialité de l'humilité. 7. Mélanie et moi blaguons souvent sur le fait que nous habitons en face l'une de l'autre, elle à Pessamit et moi à Rimouski. Cet automne, je suis descendu à la plage et je lui ai envoyé une photo prise à partir de ma rive. Quoi quoi, de l'autre bord du fleuve. Elle m'a répondu avec une photo de sa rive et m'a fait remarquer que de son côté, la plage est beaucoup plus sablonneuse. Entre nous, les eaux immenses du fleuve. Je me dis qu'elle nous relie plus qu'elle nous sépare. 8. Que retenir de ces rapports multiples et contradictoires au fleuve? De ces courants contraires, dont certains nous portent et nous nourrissent, tandis que d'autres menacent de nous emporter vers le fond? Peut-on aller à contre-courant? Peut-on préserver la vie, les vies du fleuve, et éviter qu'il ne soit transformé en eau figée, stagnante, privée de souffle et de ses mouvements créateurs? On ne peut peut-être pas restaurer ou reconstruire du jour au lendemain ni sans heurts les écosystèmes du fleuve, mais on peut recréer et revivre des écosystèmes de relations ancrées dans son écologie, son espace. On peut imaginer des contournements possibles, des résistances, des trajectoires qui dérangent l'alignement homogène, des ondulations qui trouble la surface, d'autres modulations dans la lenteur et dans la non-linéarité. On peut se remailler une territorialité fluviale engagée dans la réciprocité, incarnée par des pratiques ancrées dans le lieu et se laisser bercer par les savoirs potentiellement houleux, insoupçonnés et sûrement subversifs qui en émergent. C'était « Penser avec le fleuve », un texte d'Adèle Claperton-Richard paru à l'été 2023 dans le numéro 339 de la revue Liberté.
Migration au Chili, xénophobie et transition politique. Un texte de Carolina Palma et Sébastien Vielmas, paru le 5 avril 2022 dans la revue Nouveau Cahier du Socialisme. Le Chili a été le théâtre d'un important phénomène migratoire qui s'est accentué au cours de la dernière décennie. Il s'agit d'un processus interrégional facilité par les technologies de la communication, la baisse des coûts de transport et les conditions politiques dans la région. Selon l'Institut national de la statistique, 1 462 103 migrantes et migrants vivent actuellement au Chili, ce qui représente 7% de la population totale du pays. Au cours des 5 dernières années, on a assisté à une transformation des mouvements migratoires habituels au Chili. Alors qu'auparavant, la majorité de la population migrante provenait surtout des pays limitrophes, elle est aujourd'hui originaire de différents pays d'Amérique latine et des Caraïbes, tels que le Venezuela, le Pérou, Haïti, la Colombie et la Bolivie. Affrontement. Cette augmentation explosive de la population migrante a eu des conséquences importantes sur la politique intérieure du Chili. Les étrangers entrés au pays depuis 2018 sous le deuxième gouvernement de droite de Sebastián Piñera ont souffert de la politique dite « ordenar la casa », mettre de l'ordre dans la maison. Cette politique s'est principalement caractérisée par d'importantes barrières à l'entrée du pays, mettant notamment l'accent sur les obstacles à la frontière et sur un discours d'exclusion des migrants. Cela a donné lieu à de nombreuses expulsions sans mandat judiciaire et à de nouvelles exigences de visa consulaire pour des personnes qui en étaient auparavant exemptées, en particulier les citoyennes et citoyens d'Haïti et du Venezuela. En réaction, on assiste à une mobilisation croissante des collectifs de migrants et migrantes dans le pays, que regroupent notamment la Coordination nationale des immigrants du Chili, le Mouvement d'action des migrants, le Collectif sans frontières. Ces organisations se sont largement impliquées dans l'élaboration de mécanismes d'inclusion sociale des personnes migrantes et dans l'effort de revendication de leurs droits. Elles ont également participé activement au processus de modification de la Constitution généré par l'Estallido Social chilien d'octobre 2019. Cependant, l'afflux de migrantes et migrants et leur organisation sociale ont été à l'origine d'une nouvelle vague de xénophobie, encouragée politiquement par de nouvelles forces de droite telles le Parti républicain, fondé par le pinochetiste José Antonio Kast, lequel propose le durcissement des politiques d'immigration du gouvernement Piñera. Des groupes d'extrême droite sont également apparus, cherchant à occuper la rue et à faire de l'intimidation alors que les personnes appartenant à des minorités visibles sont de plus en plus nombreuses au Chili. Sans papiers et sans droits. Dans un contexte où évoluent parallèlement les personnes migrantes et leurs alliés, d'une part, et les partis et groupes opposés à l'immigration incontrôlée, d'autre part, il s'est produit, depuis l'arrivée du gouvernement de Sebastián Piñera, un changement important relié à l'augmentation significative du nombre de personnes s'introduisant au Chili par des corridors non autorisés, principalement au nord du pays. Depuis l'imposition de nouvelles barrières à l'entrée du pays en 2018, la hausse est spectaculaire. 2 905 en 2017, 6 310 en 2018, 8 048 en 2019, 16 848 en 2020 et 23 673 jusqu'en juillet 2021. Par exemple, près de 18 000 Vénézuéliens sont entrés par ces points de passage en 2021, alors qu'il n'y en avait eu que 9 en 2017. Les personnes ainsi entrées au pays sont dans l'impossibilité de régulariser leur situation d'immigrant. En conséquence, n'ayant pas d'alternative, plusieurs personnes se trouvent à vivre de ou dans la rue, notamment dans la ville d'Iquique, au nord du Chili. Le refus du gouvernement Piñera d'apporter un quelconque soutien à ces gens, non plus qu'aux autorités municipales et régionales, a nourri un terreau propice à une dynamique de confrontation entre les habitants de la ville et les migrants dans les rues, qui a été exploitée par l'extrême droite. Cette tension s'est honteusement exprimée lors des manifestations du 26 septembre 2021 à Iquique, alors que les images de groupes de manifestants brûlant les maigres biens des migrantes et migrants vivant dans la rue ont fait le tour du monde. Ce n'est là qu'un exemple du conflit social engendré au niveau régional par des mouvements migratoires dans la foulée des crises politiques, sociales et économiques dans d'autres pays d'Amérique latine, comme le Venezuela et Haïti. Mais le plus souvent, l'exclusion sociale des personnes migrantes est invisible. Ce n'est pas pour rien que la presse internationale se demande pourquoi les Haïtiennes et les Haïtiens quittent le Chili pour migrer vers les États-Unis, s'exposant ainsi à des politiques migratoires encore plus restrictives. C'est pour échapper au racisme social et institutionnel existant au Chili. Une volonté de la droite de criminaliser la situation des migrantes et des migrants. Des phénomènes aussi complexes que la migration exigent des réponses tout aussi complexes et multidimensionnelles qui s'inscrivent dans le cadre d'une approche fondée sur les droits de la personne. Il est vain de penser qu'en appliquant des politiques restrictives, en fermant les frontières et en les militarisant, le pays accueillera moins d'immigrants. Le Chili possède non seulement l'une des plus longues frontières du monde, mais aussi l'une des plus poreuses, malgré ses importantes barrières naturelles. Il serait insensé, par exemple, d'envisager, comme l'ont fait les États-Unis, d'ériger un mur d'une telle étendue pour empêcher l'entrée au pays. La solution pour favoriser une migration ordonnée, contrairement à l'approche de l'actuel gouvernement Piñera, et plus largement de la droite, repose sur une politique qui, d'une part, s'attaque aux causes du phénomène et, d'autre part, n'exacerbe pas les conflits sociaux. En ce sens, le leadership du président de la République est essentiel pour établir non seulement les lignes directrices d'une nouvelle politique migratoire respectueuse des droits humains, mais aussi pour développer le multilatéralisme et la coopération entre les autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes pour faire face à la crise. Les leaders de la droite et de l'extrême droite, comme Sébastien Sichel et José Antonio Caste, mettent de l'avant des mesures qui incluent l'octroi de pouvoirs accrus aux forces armées afin de freiner l'immigration illégale. Ils proposent de poursuivre et de sanctionner les organisations non gouvernementales et celles de la société civile qui apportent une aide aux sans-papiers. Ou encore, ils envisagent de construire un fossé frontalier et d'établir un enclos transitoire aux frontières afin de préparer leur expulsion immédiate du pays. Cette vision, outre qu'elle criminalise la migration, peut constituer une violation des droits de la personne qui entre au pays. D'autres voies possibles. Comprendre la réalité de la migration sous l'angle des droits humains devrait être un impératif pour la gauche au 21e siècle. Cela est d'autant plus nécessaire que ceux qui souffrent de cette crise humanitaire appartiennent toujours aux groupes les plus vulnérables de la société et ayant un risque élevé d'être exclus et discriminés. Un premier pas dans cette direction consisterait, par exemple, à adhérer au pacte de Marrakech ou au Pacte mondial sur les migrations et à ratifier la Convention 097 de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur les travailleurs migrants, dans le but de garantir les droits humains des migrantes et migrants sans papiers et des réfugiés. Un deuxième pas serait que le prochain président du Chili fasse la promotion de politiques qui intègrent légalement, y compris sur le marché du travail, celles et ceux qui sont entrés au pays, en tenant compte de leur contribution comme travailleurs à la construction du pays. D'autre part, le processus constituant qui dotera le Chili d'une nouvelle constitution en 2022 offre une occasion propice pour y inclure différentes dimensions du phénomène migratoire en mettant de l'avant un discours d'inclusion, d'égalité, d'interculturalité et de non-discrimination. En ce sens, la Commission des droits fondamentaux sera essentielle pour aborder constitutionnellement les droits humains, politiques et sociaux des migrantes et migrants, en rendant leur présence visible dans la nouvelle Magna Carta. La Commission des principes constitutionnels de la démocratie, de la nationalité et de la citoyenneté aura également pour tâche principale de discuter et d'actualiser ce que nous entendons par citoyenneté au Chili, sachant que cela a et aura un impact direct sur la qualité de vie des migrantes et des migrants résidant au Chili. C'était « Migration au Chili, xénophobie et transition politique », un texte de Carolina Palma et Sébastien Vielmans paru le 5 avril 2022 dans la revue Nouveau Cahier du Socialisme.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.